9h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonjour à vous tous. Jean-Roger Bignon à ce microphone dans un instant à l'Amérique. Et vous, on parlera de l'initiative du président Obama en faveur des jeunes Africains. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Boko Haram a encore frappé au Cameroun. Plusieurs dizaines d'islamistes nigérians ont attaqué le village frontalier de Balgaram. C'est dans l'extrême nord du pays. L'assaut a été mené hier soir à l'heure de la prière. Selon une source sécuritaire camerounaise citée par l'agence France Presse, deux militaires camerounais ont été tués lors d'affrontements avec les assaillants. Il pourrait s'agir du premier cas d'Ebola au Nigeria. Un ressortissant libérien hospitalisé à Lagos avec les symptômes de cette fièvre hémorragique est décédé. C'est ce qu'a déclaré un représentant des services de santé de l'État de Lagos sans préciser si le virus est à l'origine du décès. Le patient âgé de 40 ans qui arrivait de Monrovia a été hospitalisé suite à de violents vomissements et diarrhées. Il était passé par le Togo avant d'atteindre la capitale économique nigériane. Pas de survivants suite au crash jeudi d'un avion d'Air Algérie. Les débris de l'appareil ont été repérés hier soir dans le nord du Mali par un hélicoptère de l'armée burkinabé dans la zone de Gossi près de la frontière avec le Burkina Faso. À destination d'Alger, le vol s'est écrasé à 50 minutes après avoir décollé de Ouagadougou, la capitale burkinabé. 118 personnes étaient à bord, dont 54 Français. Un deuil national de 3 jours a été décrété en Algérie. Nouveau combat à Tripoli, la capitale libyenne, pour une 13e journée consécutive. Des milices rivales s'affrontent violemment autour de l'aéroport international, régulièrement la cible de bombardement. Par ailleurs, un travailleur maltais a été enlevé par des rebelles libyens dans la banlieue de Tripoli. C'est ce qu'annonce le gouvernement maltais. Dans ce contexte, la Cour pénale internationale menace de poursuivre les responsables d'attaques contre les civils et biens publics en Libye. Égypte, deux officiers supérieurs ont été tués aujourd'hui dans une attaque dans la péninsule du Sinaï, selon l'agence France Presse, qui tient ces informations de sources sécuritaires. Les assaillants ont ouvert le feu sur un général de la police et un général de l'armée qui rentraient chez eux dans la région de Sharq Zoued, dans le nord du Sinaï.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et le président américain Barack Obama reçoit ce vendredi dans l'après-midi à la Maison-Blanche 3 dirigeants d'Amérique centrale pour évoquer la question de l'afflux sans précédent des mineurs clandestins vers les États-Unis. Michel Joseph.
Ce sont les présidents du Guatemala, Otto Pérez Molina, du Honduras, Juan Orlando Hernandez et du Salvador, Salvador Sanchez Seren, qui ont été conviés à Washington. D'après l'exécutif américain, l'objectif de la rencontre est d'examiner les moyens de renforcer la coopération visant à juguler l'afflux de migrants sans papiers depuis l'Amérique centrale vers le Mexique et les États-Unis. Quelques 60 000 enfants sans papiers non accompagnés, originaires essentiellement de ces trois pays, ont été interpellés à la frontière avec le Mexique depuis octobre. Le président Obama avait déjà exhorté les parents de ces pays à ne pas envoyer leurs enfants illégalement aux États-Unis. Il a réclamé au Congrès une enveloppe de 3,7 milliards de dollars pour accroître les capacités d'arrestation et de détention de clandestins qui traversent la frontière, accélérer les expulsions d'adultes et renforcer les services aux réfugiés mineurs non accompagnés. Mais les républicains qui dominent la Chambre des représentants ont exprimé leur désaccord à ce sujet. Le président est fautif, disent-ils, à cause de sa décision en 2012 de régulariser des centaines de milliers de jeunes sans papiers.
Et Israël a rejeté une proposition de cesser le feu présentée par le secrétaire d'État américain John Kerry entre les militants du Hamas et Israël dans la bande de Gaza. La télévision publique israélienne et une source au sein du gouvernement affirment que le cabinet de sécurité du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a voté contre la proposition telle qu'elle est et a exigé des modifications avant tout accord de cessation des hostilités. Et puis les États-Unis accusent la Russie d'avoir tiré sur les positions de l'armée régulière dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque transfrontalière, selon le Pentagone, est la preuve d'une escalade du conflit entre les troupes ukrainiennes et les séparatistes pro-russes qui ont proclamé l'indépendance de plusieurs régions de l'Est. Vous écoutez la Voix de l'Amérique, ne partez pas, place maintenant à l'Amérique et vous.
I have a dream. It's one small step for man, Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Merci de nous rejoindre dans l'Amérique et vous, à moins de 2 semaines du sommet États-Unis-Afrique. La capitale américaine grouille déjà de la présence africaine. Les chefs d'État africains ont été précédés par de jeunes leaders. Que font-ils? Restez avec nous. Bonsoir et bienvenue à Washington.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon. À l'ombre du Capitole, État d'Élie.
500 jeunes leaders africains de tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont été sélectionnés pour participer au programme de bourse de Washington 2014 de l'initiative des jeunes leaders africains, le YALI, du président Barack Obama. Le point avec Michel Joseph.
Les participants à ce programme ont droit à 6 semaines de cours intensifs et de formation en leadership dans l'un des 3 domaines suivants, le management et l'entrepreneuriat, le leadership civique et la gestion des affaires publiques. Par la suite, 100 de participants seront retenus à Washington pour suivre des stages de formation aux États-Unis. Des programmes de développement professionnel axés sur le continent africain, des réseautages de professionnels et des opportunités d'engagement communautaire ont été conçus et mis à la disposition des participants afin qu'ils s'en inspirent, afin de poursuivre leurs propres projets une fois de retour dans leur pays d'origine. Les participants au programme de bourse de Washington sont arrivés à Washington le 14 juin, leur programme prenant fin alors que les chefs d'État et de gouvernement du continent se retrouvent dans la capitale américaine pour le sommet Afrique-États-Unis. L'initiative des jeunes leaders africains avait été dévoilée par le président Obama en 2010.
J'ai lancé cet effort parce que je pense que l'avenir de l'Afrique sera défini par de jeunes gens extraordinaires comme vous.
Parmi les jeunes leaders, Eric Mutumba de la République démocratique du Congo, qui étudie la gestion publique à l'université de l'Arkansas dans la ville de Fayetteville. Il a pu rencontrer le maire de Fayetteville.
We're learning from people who are already public.
Nous apprenons auprès de personnes qui sont déjà des fonctionnaires de grande envergure ou des acteurs politiques de haut niveau. Et c'est vraiment, vraiment intéressant et instructif.
Le programme offre également l'occasion de rencontrer et d'échanger des idées avec d'autres jeunes leaders africains qui partagent les mêmes aspirations. Les jeunes Nigérians Sani Bello et Amina Ahmed évoquent une étape importante de leur vie, ayant tous deux été orientés vers l'université Howard de Washington, D.C.
Nous sommes de différents pays, mais nous pensons tous la même chose. Comment pouvons-nous développer nos pays? Comment pouvons-nous développer le continent?
Sur les 500 participants, seuls 135 projets méritants seront retenus pour participer à des programmes de formation aux États-Unis. Ils vont travailler pendant les 8 semaines qui vont suivre le sommet de Washington dans des organisations non gouvernementales, des entreprises privées et des bureaux de l'administration fédérale. Comment ont-ils été retenus? Quels sont leurs projets pour leurs pays respectifs? Nous sommes allés plus loin avec 3 d'entre eux.
Éclat de voix.
Éclat de voix, je l'ai dit, ce sera avec nos 3 jeunes leaders présents aux États-Unis dans le cadre du YALI, l'initiative des jeunes leaders africains. On commence par la centrafricaine Martine Kessy Ekomo.
C'est un grand honneur pour moi de représenter la jeunesse centrafricaine dans le cadre de ce programme. C'est une opportunité qui nous est offerte en tant que jeunes de pouvoir vraiment construire et renforcer nos capacités en matière de leadership, non seulement sur le continent, mais aussi surtout pour notre pays. Donc je me sens vraiment honorée par le fait d'être ici et aussi et surtout de porter la voix de la jeunesse centrafricaine dans le cadre de ce programme.
Comment se nomme ce programme? Et comment est-on choisi pour en faire partie?
Ce programme s'appelle le programme des jeunes leaders africains ou encore Washington Fellow. Et comment nous avons été choisis? Nous avons été choisis sur la base de projets que nous avons, que nous avions pour nos pays, et aussi sur la base de notre vision en tant que leader pour, dans nos communautés, au sein de nos communautés.
Okay. Est-ce que vous pouvez lever un coin de voile sur votre projet à vous? Qu'est-ce qui a amené les Américains à vous choisir?
Alors, moi, ce qui a, je pense, parce que ils sont pas rentrés vraiment dans les détails sur pourquoi ils m'ont sélectionné, mais j'ose imaginer que, et j'ose espérer surtout que c'est sur la base du projet que j'ai pour la jeunesse centrafricaine, à savoir la création d'un centre de formation et d'un espace de co-création pour la jeunesse centrafricaine où ils peuvent venir, s'ils ont des organisations, ils ont déjà développé des organisations, où ils peuvent venir renforcer leurs capacités, où ils peuvent venir s'asseoir pour travailler sur leur projet, vraiment créer un espace de création, de co-création, et aussi de leur permettre de, enfin, cet espace servira aussi pour promouvoir ce qu'on appelle en anglais le community service, donc c'est-à-dire vraiment travailler avec les communautés, c'est l'engagement des jeunes au sein de leur communauté, aussi bien sur les questions de santé, de plaidoyer en matière de santé, de plaidoyer pour la paix surtout, la paix dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, qui est un grand enjeu pour la République centrafricaine, et voilà, vraiment renforcer l'impact des jeunes dans le relèvement et le développement de la République centrafricaine.
Vous avez certainement, vous, une idée de comment relever la RCA, la République centrafricaine, qui n'existe presque plus. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier secret?
Oh, mon panier secret, je ne sais pas si je peux parler de panier secret, mais c'est surtout, nous avons une force en République centrafricaine et notre force, c'est la jeunesse. Notre jeunesse représente le futur de la République centrafricaine. La jeunesse représente la majorité de la population centrafricaine. À partir de là, on sait que parmi ces jeunes-là, se trouvent nos futurs leaders. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler avec eux pour pouvoir reconstruire la Centrafrique, comment dire, préparer une nouvelle Centrafrique pour demain, amener un nouveau souffle. Et ce souffle se base principalement sur le développement, le renforcement de la capacité des jeunes à agir au sein de leur communauté, travailler au sein de leur communauté. Et je sais que les jeunes centrafricains, il y a déjà un certain nombre de jeunes centrafricains qui sont engagés pour la paix au sein de leur communauté. Construire la réconciliation, entre les musulmans et les chrétiens au sein même de leur communauté. Et c'est un travail qui n'est pas juste du fait du gouvernement, mais c'est un travail de co-création ensemble. Et le gouvernement ne pourra pas avancer si nous, en tant que jeunes centrafricains et en tant que communauté, nous ne résolvons pas déjà nos programmes au sein même de nos communautés. Donc ce n'est peut-être pas un panier secret, parce que ces jeunes sont là et ils sont visibles. Comme je l'ai dit, ils représentent la majorité de la population centrafricaine. Et donc je pense qu'il faut vraiment se reposer sur eux pour pouvoir tirer le pays vers le haut et reconstruire, avoir une nouvelle vision pacifique, une vision de développement pour la République centrafricaine.
Alors vous êtes ici aux États-Unis, comment s'articule votre stage, si j'ai pu ainsi m'exprimer?
Alors notre formation, elle est assez complète. C'est que dès le premier jour, ils nous ont, le tout début de la formation, ils sont partis sur la vision que chacun avait pour son pays ou pour sa communauté. Et donc ils nous ont donné des outils pour pouvoir renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer ce que nous avons déjà, ce que nous savons déjà, c'est-à-dire renforcer notre vision, mais comment, à partir de cette vision, créer quelque chose de concret. Donc c'est vraiment des outils pratiques, comment utiliser les données statistiques, comment approcher les populations pour vraiment rentrer dans les détails des enjeux qu'ils vivent au quotidien. C'est aussi comment créer un partenariat non seulement avec les organisations, mais aussi le secteur privé et aussi les pays africains que nous avons autour de nous. Parce que c'est ça aussi la force de ce programme, c'est qu'ils ont réuni des jeunes, comme le programme s'appelle, des jeunes leaders africains. Et ces jeunes leaders africains sont très dynamiques. Et donc c'est vraiment un réseau qu'il faut renforcer pour pouvoir faire avancer les choses sur le continent. Ah. Et donc le programme est vraiment basé autour de ces différents points, vraiment des outils pratiques.
Alors vous venez d'un espace francophone, est-ce que la formation donnée s'adapte à votre culture de base?
Alors, c'est vrai que c'est différent parce que généralement la culture francophone est très, on est très dans les théories, on est très théorique, et le plus de l'aspect anglophone, c'est qu'ils sont très pratiques. On ne s'attarde pas sur les théories, on passe dessus très rapidement. Et la question, c'est comment est-ce que, à partir des théories, je réalise quelque chose de concret. C'est vraiment ça le plus de cette formation. Donc pour moi, Voilà, j'ai toujours été sensible à ça, même de par mes formations avant le programme IALI. Et donc, je pense que c'est vraiment, oui, c'est un apport positif. Et je n'ai pas vraiment été troublée par ce changement. Bien au contraire, je sais que ça m'a apporté beaucoup.
Alors, il y a des cadres qui ont été formés avant vous dans les pays occidentaux et qui, au retour en Afrique, semblent n'avoir rien donné. Est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu pour les 500 bénéficiaires du programme IALI?
En principe, oui. Et c'est vrai surtout au niveau des ambassades, auprès des ambassades américaines dans nos pays, qui, eux, vont nous suivre et feront le relais entre le département d'État et puis les différentes organisations américaines ici aux États-Unis et avec ce que nous faisons sur le terrain. Mais la question, c'est pas seulement de savoir est-ce que c'est eux qui vont nous suivre, c'est aussi de savoir comment nous devons continuer à rester en contact avec eux pour pouvoir améliorer les choses. Parce que s'ils nous ont permis de venir ici, c'est qu'ils savent qu'on est déjà acteurs sur le terrain. Et donc, c'est comment est-ce que nous, à partir de ce qu'on a appris ici, on va avancer sur nos projets sur le terrain et comment on va revenir vers eux, qu'est-ce qu'on va leur apporter pour qu'ils puissent continuer à nous suivre. Donc, pour moi, je pense que c'est ça la question la plus importante. Comment est-ce qu'on peut continuer à les mobiliser pour avancer dans nos projets.
This morning, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying,
this is my message to you. Singing.
Je m'appelle Jean-Marc Assès Simba Fort. Je suis président du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, jeune entrepreneur au Cameroun aussi. Je pense que ça a joué le fait que je fais déjà quelque chose, parce que je pense, d'après les orientations, d'après les lectures, d'après les cours qu'on a eu à recevoir, il s'agit beaucoup de travailler avec les jeunes, avec des gens qui font déjà quelque chose dans leur pays, et qui ont la possibilité d'impacter et d'influencer les différents secteurs dans leur pays.
Alors, quel est le projet particulier que vous avez pour le Cameroun?
Le Cameroun est essentiellement jeune. Le Cameroun est à 78% jeune, c'est-à-dire 78% de la population est en deçà de l'âge de 35 ans. Donc, c'est un pays essentiellement jeune. Et les jeunes ne peuvent pas se permettre d'appliquer et ne pas prendre leurs responsabilités civiques, se lever au-delà de l'état de passivité et de laisser faire, mais jouer un rôle critique dans la prise de décision du niveau communal jusqu'au niveau national. Donc, c'est ça notre part au niveau du Conseil national de la jeunesse, représenter la jeunesse et assurer la représentation de la jeunesse dans les processus de prise de décision.
Ce qu'on sait des Camerounais, c'est qu'ils sont très patriotes, très nationalistes. Est-ce que cette formation vient juste conforter le transfert de connaissances ou de technologies que vous exigez, ou bien elle fait en sorte que la jeunesse camerounaise soit embrigadée par l'Occident?
Nous sommes 12 qui sont ici, presque tout le monde, parce que les 12 sont activement engagés dans une activité ou une autre au Cameroun. Que ce soit dans la société civile, dans le secteur privé, dans le secteur public, donc il s'agit déjà de renforcement de capacité pour voir comment on peut mieux dans nos différents secteurs. Donc, ce serait pas un problème. Ce serait pas un problème pour nous de prendre ces connaissances et de les ramener pour mieux servir notre pays, parce que nous sommes patriotes, nous sommes nationalistes. C'est d'abord le pays qu'on veut servir. Et si on peut avoir des connaissances, même si ça vient des États-Unis, ou bien de la France, ou bien de la Corée, de la Chine, et ça va nous aider à mieux servir, on va faire ces connaissances-là. Et ramener dans le pays. Déjà que je pense que ces pays ont bénéficié déjà beaucoup du fait que les Africains ont immigré il y a 20 ans, 30 ans dans ce pays, et on bâtit ce pays, il est temps maintenant que l'Afrique récupère ces connaissances-là. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you.
Je m'appelle Yannick Marie-Sandi, je suis architecte urbaniste de formation, directeur général du bureau d'études Architect and Partner Consulting SAAL. J'interviens également dans l'ONG religieuse, on appelle la Société de Saint-Vincent de Paul qui s'occupe des pauvres et des démunis. Et je dispense également des cours d'architecture et d'informatique à l'Université de Bangui, précisément à l'Institut supérieur de technologie. Le test même, ça a été vraiment très difficile. Par rapport aux statistiques que nous avons vues ici aux États-Unis, il y a eu plus de 49 000 jeunes qui ont pu participer et c'est seulement 500 qui ont été retenus. Et je crois que ça, c'est en fonction de ce que les jeunes ont pu produire localement chez eux. Parce qu'on parle de jeunes leaders, donc il faut prouver dans le passé que tu as fait quelque chose, et c'est sur cette base-là, je crois, qu'on a pu choisir les gens.
Vous êtes dans le domaine de l'architecture, est-ce là qui a prévalu ou est-ce votre affiliation à une ONG?
Je crois que c'est l'ensemble de tout ça, là, parce que en ce qui concerne l'ONG de la Société Saint-Vincent de Paul, j'ai passé 13 années, et au niveau de mon cabinet, de mon bureau d'études, c'est un cabinet qui a été créé récemment, c'est seulement l'année passée, en 2013, donc on est en train de se positionner sur les marchés centrafricains, et grâce à ça, je crois qu'on a eu à créer de l'emploi pour les jeunes, et je contribue surtout et surtout au mentorat. Comme j'enseigne également à l'Université de Bangui, je crois que c'est tout ça qui a fait ma force. Parce que le but du programme, c'est de venir apprendre et de restituer à d'autres jeunes qui sont restés au pays.
La Centrafrique est un pays qui a besoin d'être reconstruit. Vous êtes urbaniste. Quel est le projet que vous nourrissez pour votre pays?
Bon, quand je voulais participer au programme, quand je voulais venir ici aux États-Unis, j'ai réfléchi sur deux projets. Il y a d'abord un projet de reconstruction, vu tout ce qui s'est passé au niveau de la République centrafricaine, où beaucoup de maisons de nos frères musulmans ont été saccagées, détruites, et beaucoup de maisons de nos frères chrétiens ont été saccagées, détruites également. Donc je voulais proposer un projet dans ce sens pour faciliter la reconstruction de ces maisons. Mais je vois que le coût du projet sera exorbitant, alors que ce qu'on nous demande de proposer comme projet, étant que jeune, ne dépasse pas le montant de 25 000 dollars. Donc j'ai dû reconvertir le projet à un autre projet, mais cette fois-ci basé sur mon activité au niveau de la Société de Saint-Vincent de Paul. Donc, le projet que j'ai présenté, c'est la création d'une unité de séchage des fruits et légumes. On a commencé à produire les mangues séchées pour la première fois à Bangui par la Société de Saint-Vincent de Paul depuis l'année passée, et nous voulons également perfectionner cette activité pour pouvoir embaucher beaucoup de jeunes et réduire la perte des mangues. En gros, c'est ça.
À travers ce projet, est-ce que vous voyez vraiment une aide de l'Amérique à l'Afrique?
Ça dépend des résultats, puisque sur les 175 jeunes qui sont retenus dans le cadre de, dans le domaine de leadership, business et entrepreneuriat, on va seulement retenir 36 projets. Je crois que c'est à peine un cinquième. Mais non, les un cinquième, ce sont ceux-là qui vont bénéficier de ce financement-là. Mais je crois que l'Afrique a beaucoup à gagner dans cette relation avec les États-Unis parce que nous sommes venus apprendre beaucoup de choses sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Et le plus important, c'est que quand on va rentrer au pays, on va transmettre ça à d'autres jeunes pour booster un peu l'économie du pays, quoi. Donc c'est vraiment intéressant comme programme. Et je crois que nous qui sommes là, nous allons beaucoup aider à ce que le programme puisse bien continuer lorsqu'on va rentrer au pays.
Alors, vous êtes venu, vous avez appris. Est-ce que on peut calquer ce que vous avez appris dans le modèle africain?
Oui, bien sûr. Par exemple, on est dans trois domaines. D'abord, le domaine du leadership. On nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à connaître les autres et à connaître comment travailler en équipe. Puisque quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un sport de plusieurs personnes, quoi. C'est pas vous seul. Vous travaillez en équipe, donc il va falloir choisir les gens, comment motiver les gens, tout ça, et pour avoir un résultat à la fin.
Au total, former des gens capables d'assumer des responsabilités dans leurs différents pays, c'est cela.
En Afrique, c'est un continent qui est relativement jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Il y en a qui ont des qualifications et qui ne travaillent pas. Il y en a qui n'en ont pas. Mais je crois que le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut analyser ces jeunes-là, soit les former et leur trouver de l'emploi afin qu'ils puissent se prendre en charge et éviter de se mêler dans des activités comme le groupe d'armée, les rébellions et autres. Parce que si on prend le cas de ce qui se passe actuellement à Bangui, lorsque je faisais mon mémoire de fin d'études en architecture, j'ai eu à travailler sur la création d'une seconde université en République centrafricaine. Et je me suis rendu compte que le taux des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui devaient être dans un établissement d'enseignement supérieur est seulement de 1,1%. Ce qui veut dire que 98,9% des jeunes centrafricains ne sont pas arrivés à l'université ou bien n'ont pas eu le bac et qui ont abandonné les études bien avant cette échéance-là. Donc, ce qui veut dire que tous ces jeunes qui n'ont pas pu évoluer dans les études, il faut les considérer et réfléchir dans quelle mesure on peut faire quelque chose pour qu'ils puissent se retrouver dans la société et vivre comme les autres. Sinon, c'est un problème, ils vont aller dans tous les sens et il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre, comme ce que nous avons au pays avec des groupes d'armées et pour la majorité des acteurs sont des jeunes.
This morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying,
this is my message to you. Ooh-ooh.
Du 28 juillet au 30 juillet, lundi prochain donc, les jeunes leaders vont participer au sommet présidentiel convoqué par le chef de l'exécutif américain Barack Obama à Washington DC. L'Amérique et vous, ce sera tout pour cette édition. Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir et bon week-end.
Nathalie Barge, juste pour vous dire qu'on se retrouve tous les samedis à 19h30, temps universel, pour le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique. À très bientôt. Time and your money just to find out that my love
miss you here tonight.